When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 22e épisode, je reçois Alison, accompagnante parentale, conseillère en nutrition spécialisée sur la nutrition de l'enfant et de la femme allaitante, et fondatrice de Ma vie sans PLV. Elle propose ainsi un accompagnement spécialisé pour les parents dont les enfants sont concernés par les allergies alimentaires infantiles. Dans cet épisode, elle nous explique la différence entre allergie à la protéine de lait de vache, la fameuse APLV, et l'intolérance au lactose. Elle nous détaille les signes qui peuvent nous alerter et vers qui se tourner. Elle nous indique comment substituer les produits alimentaires et les carences auxquelles il faut faire attention. Enfin, elle nous donne des pistes pour communiquer au mieux avec notre enfant à ce sujet. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Alison.
Bonjour Charlie.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec toi, on va parler des allergies aux protéines de lait de vache. Mais avant, est-ce que tu peux me présenter qui tu es et quelle est ta profession, s'il te plaît ?
Je te remercie d'avoir pensé à moi pour ton podcast. Ça me fait très plaisir. Alors, je suis Alison, je suis accompagnante parentale et je me suis spécialisée pour accompagner les parents face aux allergies alimentaires infantiles. J'ai été concernée et je le suis encore aujourd'hui avec mon enfant, je sais comment ça peut être très dur. Le parcours médical est des fois compliqué et après nos rendez-vous médicaux, il y a toujours besoin d'un soutien et d'un suivi.
Qu'est-ce que tu as fait comme formation pour accompagner les parents là-dessus ?
Alors, j'ai une formation de conseillère en nutrition avec une spécialisation sur la nutrition de l'enfant et de la femme allaitante. Parce que bon nombre de mamans qui prennent contact avec moi sont des mamans qui allaitent.
D'accord. Est-ce que y a un risque plus important d'allergie à la protéine de lait de vache chez les bébés qui sont allaités que chez les autres ?
Non, pas du tout. Il n'y a pas de différence.
Ok. Souvent, on lit le sigle APLV, donc allergie aux protéines de lait de vache. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, quelle est la différence entre allergie, intolérance, hypersensibilité ? Parce que j'ai vu tous ces mots passer quand j'ai préparé mon épisode. Et donc, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris toutes les nuances entre tous ces mots.
Alors, allergie, c'est une allergie avec un choc immunitaire. Donc, il y a une réaction soit immédiate ou soit retardée. Ensuite, intolérance. Alors, il y a la vraie intolérance au lactose. Et le corps médical a banalisé ce mot, malheureusement, je trouve, et l'a mis sur l'allergie retardée. C'est-à-dire que l'allergie retardée, comme elle se produit avec des symptômes un peu moins graves et que c'est des heures plus tard, voire une ou deux journées plus tard, on l'a banalisé en disant intolérance. Mais c'est deux choses bien différentes. Et ensuite, il y a l'hypersensibilité. Et là, on va dire que c'est une allergie de type 3. Alors, je vous parle un peu technique, mais c'est une allergie aussi qui est sans risque vital. Du coup, on va parler d'IPLV. Mais tous ces mots, ça se ressemble, c'est à peu près la même chose en fait. C'est juste que le corps réagit à un aliment et c'est juste nos réactions et nos symptômes qui vont changer de vocabulaire.
D'accord, donc c'est finalement une échelle de réaction entre du plus fort à la moins forte entre l'allergie et l'intolérance et l'hypersensibilité.
Tout à fait. Par contre, moi, je n'aime pas utiliser l'intolérance parce que pour moi, l'intolérance, ça va avec le lactose.
D'accord. Quelle différence du coup entre protéines de lait de vache et lactose ?
Alors, déjà, quand on parle de protéines de lait de vache, on va parler de tout ce qui est dans le lait qui contient un grand nombre de protéines, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Alors que le lactose, c'est juste le sucre qui est contenu dans le lait. Donc, on parle de deux choses différentes. L'allergie aux protéines de lait de vache, elle peut avoir des répercussions sur la vie d'une personne. C'est-à-dire que s'il y a une allergie sévère, la personne peut avoir un choc vital et être amenée à aller à l'hôpital. Alors que l'intolérance au lactose, ça peut être très désagréable à vivre, mais c'est un inconfort quotidien.
D'accord. Est-ce que les deux sont irrémédiables et irréversibles ou est-ce qu'elles peuvent évoluer quand l'enfant grandit ?
La vraie intolérance au lactose, elle peut démarrer chez l'enfant, chez le grand enfant, chez l'adolescent.
D'accord, ça peut apparaître plus tard.
Plus tard, voilà. C'est un problème, c'est le corps qui cesse de fonctionner correctement, l'intolérance au lactose. Donc, chez le bébé ou le jeune enfant, on va parler que d'allergie aux protéines de lait de vache.
Ok, et cette allergie du coup elle est définitive ou elle peut évoluer aussi et se transformer finalement ensuite en une réacceptation du corps? Est-ce que finalement c'est dû à une immaturité du système du bébé ou est-ce que c'est quelque chose que l'on a en nous et qui du coup peut pas s'en aller?
Alors, ta dernière phrase, il y a deux choses. L'enfant, le bébé a ça en lui, ça c'est sûr. Par contre, 90% des APLV disparaissent aux alentours de 3 ans. Il y a vraiment, on va dire, 2% qui disparaissent un peu avant l'adolescence et que 1% qui va perdurer jusqu'à l'âge adulte.
D'accord, donc quelque part, c'est une mauvaise période à passer avec des adaptations à trouver, mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément les handicaper toute leur vie.
Tout à fait. Une vraie APLV, ça s'en va normalement entre 18 mois et 3 ans, s'il n'y a pas d'autres allergies.
S'il n'y a pas des allergies croisées après, c'est ça ?
Non, c'est différent. Des allergies croisées, ça va être pendant la même période, alors que si l'enfant développe d'autres allergies, c'est-à-dire par exemple une allergie aux œufs en plus, ou aux fruits à coque, là par contre ça peut durer un petit peu plus longtemps.
D'accord, ok. Ça se manifeste du coup dès la naissance, ou est-ce qu'il y a un temps à la naissance où ça peut ne pas se voir ?
J'aime bien ta question. En fait, ça se manifeste même à l'intérieur du ventre de la maman. Souvent, les allergies aux protéines de lait de vache sont héréditaires. Donc, l'enfant, il est en conception, il l'a déjà. Il y a des allergies qui ne sont pas du tout héréditaires et qui apparaissent comme ça chez l'enfant, mais ça va être dès la naissance. C'est sûr que c'est difficile de découvrir une allergie dès les premiers mois. Et encore plus quand il y a un allaitement. Parce que du coup, le bébé n'aura pas des laits pleins de protéines de lait de vache, comme les PCN, les laits infantiles en poudre. Et donc, du coup, ça va être un petit peu plus difficile à avoir des symptômes et à avoir des réactions bien distinctes.
Ça veut dire que si, par exemple, je suis enceinte, je sais que moi, j'ai fait une allergie à la protéine de lait de vache quand j'étais enfant, ça augmente les chances que mon enfant fasse aussi une allergie aux protéines de lait de vache quand il arrive ?
Je ne me rappelle pas exactement des chiffres, mais je crois qu'il y a 30% de risque, si toi tu es allergique, d'avoir un enfant allergique. Et ça passe à 70% de risque si les deux parents ont eu des allergies. Alors des allergies, que ce soit aux protéines de lait de vache ou à autre chose. Hein.
Le fait d'être allergique à autre chose peut augmenter la probabilité d'avoir une APLV pour son bébé.
Oui, une APLV ou une autre allergie. En fait, c'est pas parce que le parent est allergique je donne un exemple, au poisson, que l'enfant sera allergique au poisson. Il peut développer une allergie aux œufs ou une allergie à autre chose.
D'accord. Si on revient sur l'APLV, quels sont les signes qui peuvent nous alerter en tant que parents ?
Pour moi, l'allergie aux protéines de lait de vache, elle est vraiment sournoise parce que c'est une des allergies qui peut développer vraiment tous les types de symptômes, c'est-à-dire des symptômes généraux, cutanés, respiratoires ou digestifs. Ce dont j'entends parler le plus souvent, ça va être des régurgitations ou un reflux interne, c'est-à-dire quand l'enfant mâchonne ou on entend qu'il ravale régulièrement. Ensuite, on a des plaques, eczéma. Et généraux, ça va être des troubles du sommeil, par exemple.
Si on a une forte allergie, du coup, on a tous ces symptômes, ou est-ce qu'un seul de ces symptômes suffit à se poser la question ?
C'est compliqué de répondre à ta question. Je pense qu'il y a tout un ensemble vraiment à prendre en compte. Il y a l'état général de l'enfant, il y a les symptômes, il y a son alimentation. Et c'est pour ça vraiment que moi, je ne réponds pas à ce genre de questions comme ça à la volée. Il faut vraiment connaître l'enfant et sa situation.
Ok. Du coup, si on a un doute, vers qui on se tourne ? D'abord vers le pédiatre ?
Ah oui, tout à fait. Alors, je réponds ça et puis je me dis que la plupart des mamans qui sont venues vers moi, elles sont déjà allées voir leur pédiatre ou leur médecin généraliste et n'ont pas eu la réponse escomptée. C'est vrai que moi, j'accompagne aussi les parents pour faire un parcours médical qui peut les aider. Parce que souvent, l'allergie aux protéines de lait de vache n'est pas connue par les généralistes qui sont de l'ancienne génération ou les pédiatres de la vieille école.
Ça arrive qu'on ait des pédiatres ou des médecins qui ne soient pas du tout sensibles à ce type de questionnement des parents.
Tout à fait.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas tous, hein. Il y en a qui sont géniaux et qui le prennent en compte et qui savent que nous orienter. Mais c'est vrai qu'il y en a certains où si on leur parle de ça, ils nous disent oui. Pff.
Moi-même d'ailleurs, j'ai dû faire beaucoup de docteurs et avant de trouver ceux qui m'ont écouté.
Alors, imaginons qu'on a un pédiatre qui soit à l'écoute, qui nous oriente. On va avoir qui ? On va avoir un allergologue ?
Pour l'allergie aux protéines de lait de vache, c'est pas obligatoire. Parce que l'éviction stricte va être le seul vrai remède.
D'accord. Donc, en fait, la seule chose à faire, c'est d'éliminer le lait de vache et de voir quelque part si ça va mieux ou pas. C'est déjà un premier indice pour savoir si c'est ça ou pas.
Tout à fait. Et moi, je le vois quand je travaille avec des mamans qui me disent « Ah ben oui, mais on a tous essayé, on a fait plein de choses, on a pris des médicaments, tout ça. » C'est compliqué, mais dès qu'on fait... C'est vraiment l'éviction stricte, et c'est difficile de faire une éviction stricte parce que les protéines de lait de vache, malheureusement, les industriels en ont mis partout et continuent à en mettre même dans des endroits où on ne soupçonnerait pas.
Quel genre ?
Eh bien, par exemple, moi, j'ai eu le cas, là, il n'y a pas longtemps, j'avais un sachet de légumes congelés que j'utilisais, c'était le seul que j'avais trouvé et que j'utilisais pour mon fils, et du jour au lendemain, il y avait du beurre dedans.
Ok, donc là, la seule chose à faire, c'est d'éliminer le lait, y compris pour la maman quand elle allait.
Ah oui, ça, dans tous les cas, les allergènes, ils passent dans le lait, comme tout passe dans le lait, l'alcool, la cigarette, tout ça. Vraiment, le lait, c'est conducteur. Donc, il faut que la maman, elle fasse une éviction stricte également.
Est-ce qu'on peut se faire désensibiliser à cette allergie ?
Désensibiliser, c'est pas le mot que j'utiliserais, si c'est bien ce que j'ai compris ta question. Il y a une réintroduction possible des protéines de lait de vache.
D'accord, qu'on peut faire à partir de quand ?
Ça dépend des enfants. En plus, moi, je suis pas vraiment pour, surtout quand ils sont tout petits, parce qu'ils ont déjà vécu une période assez difficile avant éviction efficace. Donc, les remettre en contact. Et souvent, les mamans reviennent vers moi en me disant « Ah, ça s'est passé vraiment très, très mal. Mon enfant, il a souffert pendant 2 semaines. C'était horrible. » Mais beaucoup de généralistes ou beaucoup de pédiatres vont proposer la réintroduction de protéines de lait de vache. Donc, normalement, c'est à partir de 18 mois.
D'accord.
Mais un enfant, il peut très bien vivre sans protéines de lait de vache jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 3 ans même. Ben, aujourd'hui, on a des produits qui font qu'on peut très bien vivre sans produits laitiers.
Quelles sont les alternatives ? Parce que c'est vrai que quand même, quand on regarde, on n'y fait pas forcément attention, mais quand on regarde notre alimentation et l'alimentation qu'on donne à nos enfants, des protéines de lait de vache, il y en a à peu près partout.
C'est ça.
Du coup, quelles sont les alternatives quand on n'a plus ça ?
Mais aujourd'hui, on va remercier les végétaliens, les véganes, les végétariens, tout ça, parce que bah, y a des nouvelles gammes de produits qui sortent. Donc, on a les crèmes végétales, les beurres végétaux, les laits végétaux. Tous ces produits-là, ils remplacent très bien les produits laitiers.
Est-ce qu'il y a des carences qui peuvent apparaître du fait qu'il n'y ait pas cette protéine-là et qu'il faudrait substituer autrement ?
Tout à fait. C'est vrai que... il faut faire attention, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ma spécialisation en nutrition, parce que quand même les produits laitiers, comme tu le disais, il y en a partout, on a une vie alimentaire vraiment avec des produits laitiers bien ancrés dans notre vie, et donc du coup il faut faire attention, avoir un suivi soit avec une nutritionniste comme moi je fais maintenant, avec des diététiciennes, ou avec un pédiatre qui accompagnera, mais vraiment correctement.
Ok, donc c'est quand même pas à prendre à la légère, il faut faire attention à comment on substitue et à être sûr qu'il n'y ait pas de carence qui soit créée.
Bah, le calcium, c'est quand même, je ne vais pas dire vital, mais c'est très important dans la construction et le développement de l'enfant, dans les os, tout ça. Donc il faut vraiment qu'il ait son bon apport quotidien.
C'est l'élément principal qu'il faut regarder, le calcium, ou il y en a d'autres ?
Non, c'est le calcium qui est vraiment important. Surtout que le calcium, ça aide à fixer la vitamine D. Alors, si vous donnez de la vitamine D à votre enfant, mais que son apport en calcium est très bas, ça ne servira à rien.
Est-ce qu'il y a des tests qui existent qu'on peut faire aux enfants pour être sûr que c'est ça ?
Alors, il y a le test cutané qui s'appelle prick test. Il y a un deuxième test cutané avec des patchs et le test avec une prise de sang. Pour les APLV, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'éviction stricte. Parce que la majorité de tous ces tests qu'on fera en durée à un nourrisson peuvent être négatifs.
D'accord, c'est pas parce que le test est négatif qu'il n'y a pas d'allergie à la protéine de lait de vache, malheureusement.
Ah, tout à fait. Si on voit qu'avec l'éviction, l'enfant va beaucoup mieux, un prick test ou une prise de sang qui est revenue négatif, surtout ça arrive très très souvent sur l'APLV, on ne va pas y faire attention. Bah, surtout que quand, on va dire, 80% des APLV sont des APLV retardés, donc il n'y a pas un choc immunitaire, un choc anaphylactique. Et donc du coup, ces tests-là sont concernés que vraiment pour les grosses allergies sévères.
D'accord. Ok. Comment on fait quand notre enfant... Alors, chez une assistante maternelle, je me dis que c'est plus facile parce qu'on peut l'informer facilement et puis on peut fournir les repas facilement. Mais comment on fait quand notre enfant est en crèche, par exemple, pour communiquer avec eux ? Est-ce qu'ils ont des programmes spécifiques pour ça, ou est-ce que tu sais comment ça se passe ?
Alors, j'ai travaillé un peu avec l'AFPRAL, A-F-P-R-A-L. C'est une association pour les parents d'enfants allergiques.
D'accord.
Qui fait le lien entre les collectivités et les parents. Parce qu'en fait, ça peut des fois créer des problèmes de communication. Les collectivités, le personnel de la petite enfance peut avoir peur et se poser plein de questions, et donc du coup un peu être réfractaire. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler avec une formatrice pour préparer un programme afin d'informer et de former le personnel accueillant de la petite enfance et les assistantes maternelles.
D'accord, pour les former à cette allergie et au comportement à avoir avec les enfants.
Tout à fait, et aux autres allergies, parce qu'aujourd'hui on parle de l'APLV, Mais il y a des tout petits qui sont allergiques aux œufs, qui sont allergiques aux fruits à coque et à bon nombre d'autres aliments. Et du coup, ceux-là aussi sont à prendre en compte.
Est-ce qu'on sait s'il y a plus d'allergies chez les enfants aujourd'hui qu'à une certaine époque? Ou est-ce que c'est qu'on les détecte plus et qu'on y fait plus attention?
Je réponds oui à tes deux questions. Il y a beaucoup plus d'allergies qu'il y a 50 ans. C'est vraiment une très très forte progression. Et oui aussi, ben maintenant qu'on commence à être informé en tant que parent et que on va dire la nouvelle génération de pédiatres, de généralistes sont un petit peu plus formés, on les détecte plus facilement. Il y a 15-20 ans, un bébé pouvait souffrir d'APLV, avoir des régurgitations, un reflux, des problèmes de sommeil, tout ça. Et on allait dire que bah, c'était normal. Aujourd'hui, on y fait plus attention. Et puis les parents, avec le maternage proximal, sont beaucoup plus attentifs à leur enfant.
Okay. Comment on explique à son enfant qu'il ne peut pas manger de tout, comme les autres, comme nous potentiellement? Est-ce qu'il faut que nous aussi, on adapte notre régime alimentaire pour les accompagner? Comment on fait pour leur en parler?
Alors, moi qui suis seule avec mon enfant, j'adapte de temps en temps pour vraiment manger comme lui. Et je ne dirais pas que j'explique à mon enfant, mais très tôt, j'ai eu un discours vraiment informatif. C'est-à-dire que ça, c'est le yaourt de maman, ça, c'est le yaourt de Raphaël. Si tu manges le yaourt de maman, tu vas être malade. Et comme il a sorti vraiment malade à une période qu'il a, il a été très très mal... il comprend tout de suite et il faut vraiment, même quand il parle pas, tout petit, commencer à communiquer avec lui, à lui expliquer ça tu peux manger, ça tu peux pas manger. Moi, on est tous les deux donc ça va. Par contre, c'est vrai que dans une famille, c'est bien d'avoir un parent qui mange un peu comme son enfant, que pas toute la famille mange différemment et puis lui tout seul mange. Voilà, il faut l'inclure et lui montrer que c'est pas quelque chose. Qu'il n'est pas différent. Ça, c'est faut faire vraiment attention qu'il ne se sente pas différent. Surtout que les parents ont souvent peur que l'enfant se sente différent, alors que c'est notre comportement qui va le faire se sentir différent. Par exemple, mon enfant réagit aux œufs, au lait et au chocolat. Il n'a jamais mangé de chocolat et ce n'est pas quelque chose qui lui manque. Contrairement à un enfant qui, de son âge qui aurait mangé du chocolat très tôt et qui va le réclamer. Il ne sera pas en demande. Il ne sait pas ce que c'est, donc il ne va pas goûter. Et comme je lui ai parlé très tôt, j'ai communiqué là-dessus et je communique tous les jours là-dessus avec lui. Dès que je lui dis ça, non, tu sais que ça va te faire mal au ventre ou que ça va te rendre malade, il n'y a pas de souci, il comprend tout de suite.
Ok, et c'est pareil en collectivité? Le rapport avec les autres enfants n'est pas trop compliqué?
Quand ils sont petits, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je ne me suis jamais posé la question parce que je n'ai jamais été voir comment faisait la nounou ou comment ça se passait en crèche. Mais après, je connais des mamans qui ont des enfants avec plusieurs allergies. Et progressivement, quand on a une bonne... communication et un bon accompagnement avec son enfant, il peut facilement gérer lui-même en collectivité quand il n'est pas avec ses parents.
Oui, finalement, si on lui explique suffisamment tôt et suffisamment clairement et qu'on l'accompagne, il se sentira suffisamment en confiance pour lui-même l'expliquer après à ses camarades
tout à fait.
En collectivité.
Tout à fait.
Est-ce que tu as des livres à ce sujet qu'on peut lire avec eux pour essayer de les accompagner au mieux?
Oui, il y en a plein. D'ailleurs, j'ai fait deux posts là-dessus en détaillant les titres, les auteurs, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est souvent indiqué à partir de 3 ans, mais par exemple, moi, j'ai pris un livre pour Raphaël. C'est l'histoire de Gabriel. Et dès ses 18 mois, j'ai commencé à lui lire le livre. C'est un petit garçon qui va rentrer à l'école et qui est allergique. Et donc, du coup, il est attentif et puis ça lui parle. On parle aussi des accidents quand il est à l'école ou avec ses copains, tout ça. Donc oui, il ne faut pas hésiter à aller voir les deux posts que j'ai faits. J'ai même mis des vidéos. Il y a une chanson aussi, bon, un peu horrible pour les parents, mais ça peut beaucoup amuser les enfants. J'ai un article sur mon site internet aussi, si tu voudrais.
Ah bah si tu peux m'envoyer le lien, comme ça je mettrai directement le lien de l'article.
Très bien.
Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose que tu voudrais rajouter ?
Bah moi, je propose des accompagnements. C'est pas que un suivi par rapport à l'allergie aux protéines de lait de vache. C'est vraiment un soutien aussi, parce que bah, c'est pas facile d'avoir nos enfants qui souffrent. Et il y a aussi la parentalité qui est mise en cause quand on sait plus quoi faire. On n'est pas beaucoup aidé, surtout que les généralistes, les médecins et les allergologues n'ont pas le temps de faire l'accompagnement nécessaire
des parents,
que ça soit pour lire les étiquettes, pour faire nos courses ou pour changer notre manière de cuisiner. Et c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser là-dedans.
Donc, pas hésiter à demander de l'aide aussi si on ne s'en sort pas.
Tout à fait, oui.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Je suis contente, vraiment contente que tu aies fait appel à moi, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mamans qui sont concernées par les allergies alimentaires infantiles.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on est parent, c'est pas simple de s'y retrouver et de pas patauger.
Si on a un pédiatre, on va dire, de la vieille époque, on sera pas du tout écouté. J'ai même eu des mamans qui m'ont dit, mais on a dit que c'était ma faute, que c'était moi qui était trop stressée, ou que mon bébé il était alors je dirais pas les mots vraiment, parce que c'est des mots très forts, mais que mon enfant était embêtant ou des choses comme ça. Oh, ça me fait mal au cœur d'entendre ça.
Ben,
donc voilà.
Merci beaucoup de ta participation.
Et bien à bientôt.
Cet épisode touche à sa fin. Je vous mets en lien dans les notes descriptives de l'épisode l'article du blog d'Alison sur les recommandations de livres pour présenter et parler avec vos enfants des allergies. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kyler Tsinis. I'm Kyler Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.